passé de 40 secondes, vous écoutez Europe 1. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Et la fin d'un tabou dans l'église catholique, le cardinal Barbarin, condamné à 6 mois de prison avec sursis, il va remettre sa démission au pape François. Emmanuel Macron interpellé par une gilet jaune qui lui reproche la répression policière lors d'un grand débat dans les Alpes de Haute-Provence. Nicolas Florian est depuis aujourd'hui le nouveau maire de Bordeaux. Il a officiellement succédé à Alain Juppé et ça s'est passé sous les yeux du correspondant d'Europe 1, Stéphane Place, qui sera en direct avec nous. La justice européenne exige la transparence. Tout le monde a le droit d'avoir des informations sur la toxicité et les risques de cancer liés au glyphosate. Fini désormais les rapports confidentiels. L'aide alimentaire ne s'arrête pas à la fin de l'hiver. Les Restos du Cœur vont faire appel à votre générosité demain et après-demain dans les supermarchés. Gare aux compléments alimentaires censés booster notre cerveau ou notre mémoire. Ils font souvent plus de mal que de bien, c'est ce que dit l'association 60 millions de consommateurs. Et puis ils sont décidément irréductibles, ces Bretons. Rennes s'impose dans son 8e de finale aller de Ligue Europa en battant les Gunners d'Arsenal à domicile 3-1. Rennes qui peut donc logiquement rêver. Ça fait moins rêver, en revanche, beaucoup de nuages prévus demain, mais aussi quand même quelques éclaircies. Un temps de saison, nous dira Valérie Darmon à la fin de ce journal, avant un week-end qui sera probablement bien gris. Comme chaque soir à 22h20, vous avez rendez-vous bien sûr avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Yvan Lefranc-Morin, le directeur général de Flixbus.
Europe 1.
Le cardinal Barbarin, archevêque de Lyon, primat des Gaules, le plus haut dignitaire catholique français, va donc remettre sa démission au pape François. Il l'a lui-même annoncé après sa condamnation ce matin à 6 mois de prison avec sursis, condamné pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du père Prénat.
Je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père pour lui remettre ma démission. Il me recevra dans quelques jours. Je vous remercie.
Voilà le cardinal Barbarin ce matin après l'annonce de sa condamnation. Il devrait donc rencontrer le pape François dans les prochains jours. Le pape qui a organisé il y a 2 semaines au Vatican un sommet historique sur ce sujet et promis une lutte à tous les niveaux contre la pédophilie. Va-t-il accepter cette démission? Écoutez en tout cas ce soir la réaction de François Deveau de l'association de victimes La Parole Libérée.
Il n'y a pas de triomphalisme. Hein. Il y a juste l'aboutissement d'un engagement qui aura effectivement été d'une intensité peu comparable.
Le cardinal Barbarin prend acte de la décision, mais il va faire appel, François Deveau.
Oui, qu'il fasse appel, hein, c'est son choix et. Peut-être qu'il faudrait quand même prendre le temps de bien lire les motivations qui ont été exprimées par le jury, parce que je vois pas tellement l'axe, mais s'il souhaite faire appel, il peut. Mais encore une fois, c'est ne pas comprendre le niveau sur lequel on place le débat. La justice n'est qu'un moyen pour répondre à une cause morale. Faire appel pour aller chercher quoi? Une prescription? Un vice de procédure?
François Deveau de l'association de victimes La Parole Libérée qui était l'invité du grand journal de Mathieu Béliard ce soir sur Europe 1. On précise que les 5 autres personnes mises en cause dans cette affaire ont été relaxées, 5 ex-membres du diocèse de Lyon. Mehdi Nemmouche, déclaré coupable des 4 assassinats commis le 24 mai 2014 au musée juif de Bruxelles, son co-accusé, un délinquant marseillais jugé pour lui avoir fourni les armes, a été reconnu co-auteur de cette tuerie. Tous les deux en cours, la réclusion à perpétuité. La cour se réunira une nouvelle fois demain pour fixer leur peine. La révélation d'une correspondance entre le détenu de Condé-sur-Sarthe qui a agressé 2 prisonniers et Chérif Chekat, l'auteur de l'attentat du marché de Strasbourg. Tous les deux ont échangé des courriers, dont certains était à tonalité religieuse, mais sans qu'il soit question d'un éventuel passage à l'acte. Les deux hommes avaient été incarcérés dans la même prison entre fin 2014 et début 2015. Les plaintes de 2 policiers à Grenoble après la mort de 2 jeunes le week-end dernier alors qu'ils tentaient d'échapper à la police. 2 agents qui affirment avoir été menacés sur les réseaux sociaux.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Quand est-ce que vous allez réagir, Monsieur le Président ? Un collégien a interpellé aujourd'hui Emmanuel Macron sur l'urgence climatique. Vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent ? Lui a-t-il demandé. Le chef de l'État était cet après-midi dans les Alpes de Haute-Provence, à Gréoux-les-Bains. La transition écologique s'est donc invitée dans ce grand débat national, mais il n'a pas été question que d'environnement. On a aussi parlé des gilets jaunes, Nathalie Chevance.
Oui, et ils étaient une bonne centaine avec en appui des militants de la CGT à manifester à quelques mètres de la salle des congrès, tenue à l'écart, mais finalement présent quand même par la voix d'une agricultrice, Alexia, membre de la Confédération paysanne, solidaire du mouvement des Gilets jaunes et qui a demandé à Emmanuel Macron quand la répression policière allait cesser.
Nous sommes dans cette salle, réunis à l'occasion du grand débat, qui n'existe que grâce à ce mouvement social, qui, alors que nous les oublions quelque peu enfermés dans cette salle, sont certainement en train de se faire réprimer à l'extérieur, en essayant de s'exprimer, puisqu'ils ne sont pas ici parmi nous. Quand est-ce que cette répression va cesser ?
Alors si un petit groupe de gilets jaunes a tenté de forcer le périmètre de sécurité, aucune violence n'a été signalée et le chef de l'État en a profité pour condamner les actions de ces dernières semaines.
Ne parlez pas de répression, de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Détruire les vitrines, menacer de mort les élus, frapper les forces de l'ordre, se mettre des masques, des casques, arriver avec des boulons, etc., ça n'est pas la démocratie. Donc vous me parlez de répression, je vous dis c'est faux. Et tant que je serai là, la liberté de manifester et l'état de droit seront préservés, mais avec la rigueur qui convient pour que l'ordre public soit respecté. Parce qu'il y a des millions de citoyens qui veulent la paix publique.
Voilà un échange assez vif avec cette militante de la Confédération paysanne, mais au final, 5 heures de débat très dense sur les questions de transition écologique, avec cette phrase d'Emmanuel Macron, faire plus fort, plus vite, plus loin.
Le reportage de Nathalie Chevance à Gréoux-les-Bains. Et on prend maintenant la direction de Bordeaux, qui depuis aujourd'hui a un nouveau maire, Nicolas Florian, qui a officiellement succédé à Alain Juppé. Bonsoir Stéphane Place.
Bonsoir Isabelle Millet, bonsoir à tous.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en direct. Stéphane, c'était donc une journée particulière, hein, puisqu'après l'élection du nouveau maire, c'est l'ancien qui est venu dire au revoir aux Bordelais.
Oui, et devant environ 1 millier de personnes réunies dans la cour du Palais Rouen, l'hôtel de ville de Bordeaux, c'est le nouveau maire, élu effectivement ce matin, Nicolas Florian, qui a accueilli son père, son modèle en politique, selon ses propres mots, Alain Juppé.
Pour un gaulliste comme toi, ancien Premier ministre, plusieurs fois ministre, rentré au Conseil constitutionnel, je serais tenté de dire, ça a de la gueule. Et les Bordelaises et les Bordelais qui sont là, et toutes seules qui t'accompagnent de leur amitié, peuvent être fiers de toi.
Voilà, sur le perron, Alain Juppé prend la parole à son tour, à la fois pour rappeler le travail accompli en 24 ans, le tramway, l'aménagement des quais, bref, la formidable transformation urbaine de Bordeaux, et pour dire aussi, plus que jamais, son amour à cette ville, sa ville.
C'était une belle période, c'est une belle expérience, c'était une belle vie, c'était formidable, voilà ce que j'aime dire. Voilà le nombre de Bordelaises et de Bordelais qui étaient dans la cour, ou que je rencontre dans la rue et qui me disent merci pour ce que vous avez fait. Il faudra avoir un cœur de pierre pour ne pas être un peu ému. Et vous savez que la carapace n'est pas aussi épaisse qu'on veut bien le dire.
Un bain de foule, des bises, des selfies, des anecdotes, des accolades. Alain Juppé joyeux disparaît dans les rues de Bordeaux pour un bon gueuleton, annonce le sage, qui entre au Conseil constitutionnel, prestation de serment le 11 mars.
Merci beaucoup Stéphane Place, correspondant d'Europe 1, en direct avec nous ce soir. C'est un projet qui a du plomb dans l'aile, celui de la ligne TGV Lyon-Turin, dont les travaux ont pourtant déjà commencé. Mais aujourd'hui, le Premier ministre italien affirme que ce n'est pas un projet dont l'Italie a besoin, alors que récemment, une étude pointait la non-rentabilité de la construction. Le président algérien met en garde contre le risque de chaos, toujours hospitalisé en Suisse. Abdelaziz Bouteflika réagit après 2 semaines de mobilisation. Il exhorte les Algériens à veiller à la préservation du pays. Aujourd'hui, ce sont des avocats qui ont manifesté devant le siège du Conseil constitutionnel pour réclamer l'invalidation de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h09 et c'est la suite de votre journal de la nuit avec cette décision qui va faire jurisprudence. Elle concerne le glyphosate. Aujourd'hui, en effet, à Bruxelles, la justice européenne a estimé que l'intérêt du public était supérieur à l'intérêt commercial. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que nous avons le droit de savoir, d'être au courant des informations qui ont trait à l'environnement. Lors d'Autriche, la Cour de justice a annulé une décision de l'Agence européenne de la sécurité des aliments qui avait refusé de rendre public des études sur les risques de cancer concernant le glyphosate.
Exactement. Alors, à l'origine, ce sont quatre députés européens écologistes qui avaient demandé à accéder à des études non publiques sur la toxicité, effectivement, et les risques de cancer liés au glyphosate. L'Agence de la sécurité des aliments avait refusé de dévoiler les résultats de cette étude au nom de la protection des intérêts des entreprises qui mettent ces produits sur le marché. Et effectivement, aujourd'hui, le tribunal de l'Union européenne vient de retoquer cette décision. Ça veut dire que pour eux, ce qui doit primer, c'est que le public puisse accéder à ces informations lorsque cela concerne l'environnement et donc la santé. Ça veut dire que désormais, les entreprises, par exemple Monsanto, ne pourront plus dire qu'elles ne peuvent pas publier les résultats en raison de la confidentialité des documents, du secret des affaires. Elles devront donc rendre publics les résultats des études qu'elles ont commandées sur l'environnement, les risques pour la santé de tel ou tel produit. C'est donc une grande victoire, disent les députés européens qui ont porté ce dossier, car la justice européenne a choisi de se placer du côté de l'intérêt général, et cet arrêté va faire jurisprudence sur tout ce qui va toucher les substances chimiques qui peuvent être dans l'environnement, les substances employées dans les pesticides ou les produits de nettoyage par exemple. Tout expert, tout député pourra désormais demander les études qui ont été faites par les industriels.
Les précisions de Laure d'Autriche pour Europe 1. Ils ont besoin de vous, de nous. Les Restos du Cœur organisent demain et après-demain une grande collecte nationale pour compléter l'aide alimentaire pendant la période estivale. Il n'y a pas de saison pour avoir faim. Marie Gérard est l'une des bénévoles des Restos.
Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est très particulier, c'est notre week-end resto. Donc là, on est sur la collecte nationale et on attend beaucoup. On attend 8000 tonnes de denrées. C'est 8 millions de repas pour les personnes qu'on accueille toute l'année. Ce dont on a besoin, c'est en priorité des dons alimentaires qu'on peut stocker, donc pas de produits frais, pas de choses comme ça. Conserves, pâtes, riz, et puis aussi des produits d'hygiène, parce que ce sont des produits qu'on distribue aux plus démunis. Du shampoing, au gel douche, au rasoir, les brosses à dents, les dentifrices et les produits bébés. Et aujourd'hui, des bénévoles de longue date, des bénévoles d'un jour, on est à peu près 77 000 sur le terrain pendant 2 à 3 jours. Sur 7 000 magasins, on pense que les gens vont être motivés ce week-end à penser à nous en faisant leurs courses.
Marie Gérard, bénévole au Resto du Cœur au micro Europe 1 d'Hélène Terzian. Les bénévoles qui seront donc présents dans 7000 magasins. Et maintenant, cette mise en garde. Attention aux compléments alimentaires destinés à booster notre cerveau, notre mémoire, notre attention, très à la mode. Ils sont dans le viseur de l'association 60 millions de consommateurs. Mélanie Gomez, dans leur très grande majorité, ces produits sont sans intérêt et parfois même dangereux.
Si on prend d'abord les produits vendus pour booster la mémoire des enfants ou alors celle des ados au moment du bac, le constat est clair, ils sont quasi tous inutiles. En fait, le plus souvent, le cocktail de nutriments du type oméga-3 qu'ils contiennent, il suffit de manger équilibré avec par exemple du poisson comme les sardines au moins une fois par semaine pour avoir les mêmes vertus. Donc pas besoin de gaspiller parfois jusqu'à 25 euros la boîte de gélules. Enfin, on apprend aussi que certains de ces compléments contiennent des plantes qui n'ont jamais fait preuve de leur efficacité. C'est le cas du ginkgo biloba, très à la mode, on en trouve partout, explique Christelle Pangrazi, de 60 millions de consommateurs. Or, ça peut être même dangereux.
Donc, c'est une plante qui est souvent associée aux seniors, hein, pour la mémoire, les fonctions cognitives. Non seulement cette plante n'a pas fait la preuve de son efficacité de manière scientifique, et que par ailleurs, elle peut rentrer en interaction avec des traitements anticoagulants. De toute façon, elle est inutile, donc pourquoi la prendre ? Proscrivons-la.
Enfin, attention aussi à un autre soi-disant produit miracle très prisé pour doper l'attention, le guronzan. C'est surprenant, mais il serait beaucoup trop salé. Deux comprimés, c'est 60% des apports en sel recommandés par jour. Et donc trop de sel, ce n'est pas bon pour les vaisseaux sanguins, y compris ceux du cerveau.
Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Les joueurs du PSG n'étaient pas vraiment boostés hier soir. C'est le moins que l'on puisse dire. Alors on ne va pas revenir sur le fiasco parisien en Ligue des Champions. Mais il y a une autre équipe française qui était sur les terrains ce soir, c'est Rennes. Et pour le coup, ça s'est très bien passé pour les Bretons dans ce 8e de finale aller de Ligue Europa face à Arsenal. Christophe Lamar des Anglais qui se sont inclinés. 3 buts.
Oui, Rennes qui a réalisé un véritable exploit, victoire 3-1 ce soir face à Arsenal. Et pourtant les choses s'étaient quand même franchement mal engagées, menées dès la 4e minute les Bretons, mais qui ont su relever la tête, revenir dans cette partie par l'intermédiaire de Bourigeaud, puis doubler la mise en deuxième période. Nacho contre son camp qui permet à Rennes de passer devant au score, et enfin Ismaël Assar d'une magnifique tête à bout portant qui permet donc à Rennes de mener 3-1 à la mi-temps, va-t-on dire, de ce 8e de finale, parce qu'il y a un match retour retour à jouer. Ce sera jeudi prochain à l'Emirates Stadium à Arsenal. Mais c'est vrai que ce soir, l'exploit, il est rennais et que plus que jamais, on imagine ici Rennes se qualifier pour les quarts de finale. Mais il y a quand même un match retour à jouer. Ce sera dans une semaine.
Et on suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Christophe Lamar. De son côté, Lyon jouera son 8e de finale retour de la Ligue des Champions mercredi prochain à Barcelone. Et ce sera à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1. Et puis notez que l'UEFA a ouvert une enquête sur Manchester City pour des violations présumées du fair play financier. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Valérie Darmon. Valérie, demain, on aura droit à un temps variable.
Absolument, et dès demain matin, la dégradation pluvieuse d'aujourd'hui va se retrouver du sud-ouest à l'Alsace ou encore au Jura. Il va neiger d'ailleurs à partir de 800 à 1100 mètres d'altitude sur les reliefs du nord au sud. À l'avant, entre Roussillon et Alpes-Maritimes, là le temps sera dès le matin plus ensoleillé. Et à l'arrière, le ciel de Traîne est lumineux avec quelques plaques de nuages bas, plus chargées d'ailleurs entre les Ardennes et le Luxembourg, avec des averses éparses. Il fera même dans l'après-midi relativement beau sur la région parisienne, les Pays de la Loire, les Hauts-de-France, les Charentes et le Nord-Aquitaine. Et l'après-midi, cette dégradation va se décaler très tranquillement sur les régions de l'Est. Les minimales, elles seront comprises entre 3 et 6 degrés, 6 à 10 le long des côtes et jusqu'à 12 en Corse. Les maximales, 11 à 14 sur la moitié nord, 13 à 16 sur la moitié sud, 15 à 19 sur le pourtour méditerranéen. Et en Corse, nous baignons toujours dans la douceur.
La météo, signée Valérie Darmon sur Europe 1. Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com, juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir le directeur général de Flixbus. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Si je dis 3, bah vous dites que c'est compliqué, qu'il ne faut pas confondre 3 dans l'aube avec la gare de 3 ou 3. Et là, je parle de 3, le chiffre. Comme 312 divisé par 104 font 3. C'est simple, non?
En ce moment, chez Nissan, ce qui est vraiment simple, c'est que 3, ce sont les 3 mois de loyer offerts sur Nissan Micra, Juke, Qashqai et X-Trail. Portes ouvertes du 15 au 17 mars.
Nissan, innover autrement.
3 premiers loyers offerts après paiement premier loyer majoré sur l'aile des 49 mois pour modèle Nissan 9 si accordé jusqu'au 31 mars. Détails Nissan.fr.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h17 sur Europe 1, comme tous les soirs à cette heure-ci, on s'intéresse à la bourse et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui s'enfonce encore un peu plus dans le rouge ce soir.
Oui, Wall Street poursuit sa glissade. Quatrième séance de baisse pour le Dow Jones qui perd 0,78%, 25 473 points. Même scénario pour le Nasdaq, moins 1,13%, on est à 7 421 points. Le rendez-vous du jour, il était en Europe avec la réunion de la BCE, la banque centrale qui se montre plus pessimiste pour l'économie de la zone euro. Elle va donc repousser de 6 mois au moins jusqu'à fin 2019 ses hausses de taux, donc pour soutenir cette économie. L'euro en subit les conséquences. La monnaie unique tombe à un plus bas de 4 mois face au dollar, sous la barre de 1,12 $. À Wall Street, les bancaires qui sont très sensibles à la question des taux accusent le coup. JP Morgan, Bank of America ou Goldman Sachs lâchent environ 1%. En baisse également, on a Amazon, moins 2,6. Le géant du commerce en ligne va fermer ses 87 magasins éphémères aux États-Unis après une année d'expérimentation. Le reste du secteur technologique souffre également. Apple perd 1,2%, Microsoft moins 1,2% également. Et puis le pétrole termine en hausse, plus 0,6% pour le WTI. On est à 56,25 $.
Et le marché parisien, lui, Claire, termine la journée en baisse.
Oui, c'est du rouge pour le CAC 40, moins 0,39%, 5 268 points. Les banques piquent du nez, pénalisées comme à New York par les annonces de la BCE, puisqu'elles auraient apprécié les banques que les taux remontent plus vite. Société Générale perd 4,3%, Crédit Agricole moins 3,1%, BNP Paribas moins 3,4%. Le secteur automobile est sous pression, comme hier, l'équipementier Valeo et le constructeur Peugeot cèdent 3,8%, moins 2,9% pour Renault. Et puis Elis plonge de 4%, malgré une solide publication annuelle. Eh bien, les investisseurs sanctionnent des objectifs qui sont jugés décevants.
Et le titre de Lafarge Holcim recule après ses résultats financiers.
Avec un repli de 0,7% pour le cimentier Lafarge Holcim, c'est nettement mieux pour JC Deco avec un gain de 1,2%. Le groupe de mobilier urbain a séduit avec une solide publication annuelle. Ailleurs en Europe, les marchés ont terminé dans le rouge après la BCE. Francfort perd 0,6%, Londres moins 0,5%, Milan moins 0,7%, Madrid recule de 0,5%, Amsterdam moins 0,4%. Et à Paris, le CAC 40 enregistre une baisse de 0,4%, 5268 points.
Eh bien, merci beaucoup Claire Lemaître de Boursier.com.
Europe 1.
Et à 22h19, c'est l'heure de l'invité éco, Emmanuel Duteil. Vous recevez ce soir le directeur général de Flixbus.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et cette fois, c'est promis, on va retrouver Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez donc ce soir le directeur général de Flixbus.
Bonsoir Yvan Lefranc-Morin.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général France de Flixbus. Alors on les connaît, hein, les Flixbus, on les voit sur les routes de France. C'est le grand concurrent de Ouibus qui va bientôt s'appeler Blablabus parce que la filiale de la SNCF a été rachetée par Blablacar. Et vous aussi, vous voulez grossir puisque vous avez annoncé hein, il y a quelques jours que vous voulez racheter Eurolynx et Easylynx qui appartiennent pour le moment à un autre groupe de transport français. Tout ça est un peu compliqué, mais c'est Transdev qui était donc le troisième acteur de ce marché des cars. Première question toute bête. Pourquoi donc vouloir racheter Eurolynx et Easylynx?
Ça nous permet de grossir plus vite, ça nous permet d'ajouter beaucoup de nouvelles destinations, de nouvelles lignes à notre réseau français et européen. Et tout l'enjeu pour nous, c'est d'offrir une offre la plus complète possible aux consommateurs, avec le maximum de fréquences, le maximum de lignes. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a ouvert des négociations avec Transdev pour le rachat d'Easylynx et Eurolynx.
Ce qui est assez fou quand on regarde ce marché qui a été ouvert, libéralisé par la volonté d'Emmanuel Macron en 2015 quand il était ministre de l'économie, il y avait 5 acteurs quand ça s'est lancé. Il y en avait déjà plus que 3 l'année d'après. Et donc, cette année, il n'y en aura plus que 2. Le but, c'était ça, il fallait manger tout le monde pour qu'au final, il y ait de moins en moins de concurrence.
C'est souvent le cas quand des marchés s'ouvrent ou se libéralisent comme celui-là. Il y a souvent beaucoup d'appétit au départ, beaucoup d'acteurs, et ensuite ça se rationalise. En général, les meilleurs restent sur le marché. C'est ce qui se passe, c'est ce qui était attendu en réalité hein, depuis de nombreuses années. On savait très bien que ça ne terminerait pas à 5 acteurs. Et effectivement, on va se retrouver à 2 acteurs, ce qui semble être probablement le bon nombre pour qu'on puisse enfin tirer les bénéfices de nos investissements sur ce marché.
Alors c'est ça, la plupart du temps, ceux qui restent, c'est ceux qui ont eu le courage de perdre de l'argent pendant très longtemps ou qui pouvaient en perdre beaucoup plus que les petits copains. Vous, en l'occurrence, vous appartenez à un gros groupe hein, parce que Flixbus fait partie des plus grands groupes de cars, de bus comme ça en Europe. Face à vous, vous aviez Ouibus avec la SNCF, donc eux aussi étaient prêts à perdre des millions d'euros. Du coup, maintenant, ça veut dire que les prix des billets vont monter pour nous, consommateurs? C'est fini, on va plus perdre de l'argent?
Non, c'est absolument pas notre stratégie. Il n'y aura pas d'augmentation de prix. Nous, on pense que la rentabilité va en fait être atteinte grâce au taux de remplissage. En réalité, c'est le nombre de personnes qu'on arrive à mettre dans un car. Et on est à quelques points de pourcentage, justement, de pouvoir atteindre la rentabilité grâce à ce taux de remplissage. On est aujourd'hui, grosso modo, rempli à 65% en moyenne. On pense que à 70%, on sera rentable et c'est
mais
bien.
Vous pouvez vraiment nous assurer là ce soir sur Europe 1 que chez vous, Flixbus, les prix ne vont pas augmenter?
Oui, je peux l'assurer, les prix ne vont pas augmenter. Rien ne sera effectivement, en tout cas dans une mesure très forte. On va effectivement maintenir cette politique de prix bas. C'est notre ADN et c'est vraiment la façon dont on voit l'avenir de notre société en France et en Europe. Parce qu'on est sur un marché de la mobilité qui est beaucoup plus large que le marché de l'autocar. On a du covoiturage, il y a du train low cost en face de nous. Et finalement, même si on avait la volonté d'augmenter les prix, ça serait probablement se tirer une balle dans le pied. Puisque
on me disait que pour que le bus reste intéressant, en tout cas pour que moi, consommateur, je me dise je vais passer beaucoup plus de temps dans un bus que versus un train, il faut que ce soit 3 fois moins cher environ. C'est ça l'idée?
Alors, pas forcément le 3 fois moins cher, je ne sais pas exactement d'où il sort. On se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont très sensibles à une différence de prix, même relativement minime. Il y a des gens qui vont être prêts à faire 10 heures de car contre 3 heures de train pour économiser 10 à 15 euros. Donc en fait, la sensibilité au prix est très très forte. Et donc effectivement, nous, notre credo, c'est de rester le mode de transport le moins cher. On est toujours 25-30% moins cher que le covoiturage et on entend bien le rester.
Mais malgré tout, vous et les futurs là, Blablabus, donc les anciens Ouibus, vous aurez moins intérêt à vous battre sur les prix. Il y aura moins d'offres promotionnelles ou ce genre de choses. Vous allez garder sûrement des prix bas, mais le gros coup là des prix à 4-5 euros, c'est fini quand même tout ça.
Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis toujours, notre concurrent principal n'ont pas été nécessairement les autres compagnies de cars, mais plus ce que je disais, le covoiturage par exemple, ou le train. On a 50% des clients des cars Macron qui viennent de la voiture individuelle, dont une écrasante majorité du covoiturage. Finalement, on va continuer à se battre avec tous ces acteurs-là, même si un de ces acteurs est finalement en train de se diversifier en faisant à la fois du covoiturage et à la fois du car. Mais pour autant, ces acteurs-là vont pas disparaître et on va devoir toujours maintenir la pression, une pression forte sur les prix pour pouvoir s'assurer un remplissage de nos autocars le plus grand possible.
Eurolynx et Easylynx, ce sont des marques très connues en Europe, en France. Vous allez la garder ou vous allez les faire passer aussi sous votre bannière verte et orange de Flixbus?
C'est un peu tôt pour le dire. On est, comme vous l'avez dit, en négociation exclusive. Il semblerait qu'à moyen terme, il n'y ait pas de logique nécessairement à maintenir les marques, même si elles sont très connues. La marque Flixbus est aujourd'hui très connue en France, en Europe et maintenant dans le monde, puisqu'on est présent aux États-Unis également. Donc à horizon moyen-long terme, effectivement, on peut imaginer que ces marques-là seront probablement incluses dans la marque Flixbus, mais c'est un peu tôt, encore une fois, pour faire des prévisions, notamment sur le court terme.
Ce qu'on entend quand même, c'est qu'il y a une très forte probabilité que si cette opération fonctionne, que tout ça s'appelle Flixbus.
On a une marque très forte, donc il n'y a pas de raison, effectivement, de garder d'autres marques en parallèle sur le long terme.
Alors, vous le disiez, hein, votre concurrent aujourd'hui, c'est Blablacar, qui a racheté les Ouibus de la SNCF, qui les appelle donc les Blablabus. Eux font du covoiturage et se présentent aujourd'hui comme un vrai groupe de la mobilité, du point à point par tous les moyens de transport. Vous, c'est pas du tout quelque chose que vous regardez? Vous faites du bus, ça vous suffit?
Alors, non, on est aussi un groupe de mobilité, et c'est comme ça qu'on s'appelle. En bus, il faut savoir qu'on fait du train. En Allemagne, on est opérateur de train, ça marche très bien. On estime qu'il y a une vraie complémentarité entre les modes de transport train et autocar. On est beaucoup plus sceptique sur la complémentarité covoiturage-autocar. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on n'a jamais lancé de verticale ou d'activité de covoiturage. Mais voilà, on fait du train en Allemagne.
Quand le train va se libéraliser en France, vous serez intéressé?
On est intéressé, on regarde ce qui se passe. Évidemment, tout se prépare dès maintenant, donc on a des équipes qui travaillent sur le sujet.
C'est vraiment d'ici quelques mois pour les lignes régionales et quelques mois aussi pour les TGV maintenant.
Aucune décision n'a été actée pour le moment, mais effectivement,
vous dites pas non, vous regardez.
On dit absolument pas non. On regarde de façon très forte effectivement ce nouveau marché en France et dans d'autres pays européens.
Alors là, une très très mauvaise nouvelle. Il paraît que les vacances sont bientôt terminées pour les Parisiens qui sont encore en vacances. Ça a été une bonne période pour vous puisqu'il y a eu beaucoup d'offres pour les stations de ski notamment.
Oui, ça a été une très bonne période, comme d'ailleurs à chaque période de vacances scolaires. On a beaucoup de familles qui se mettent à voyager avec nous, beaucoup de passagers supplémentaires par rapport à des périodes plutôt creuses.
Et en termes de progression, ça donne quoi?
On est en progression de l'ordre de 25% par rapport à la même période de l'année dernière. Donc c'est encore une augmentation très forte.
Vous avez quand même énormément, vous et vos concurrents, renforcé l'offre vers le ski. Là, vous avez fait un énorme pari, notamment auprès des jeunes pour partir au ski. Un pari qui se vérifie, que la saison était bonne au ski. Donc
la saison a été très bonne. C'est pas la première fois qu'on a lancé des lignes vers les stations sportives.
Vous les avez renforcées, non?
On les a renforcées, on a adapté un petit peu notre offre et on s'améliore d'année en année. Donc effectivement, ça a rencontré un très fort succès. Mais il n'y a pas que les lignes de ski qui ont bien fonctionné. Traditionnellement, toutes les lignes du réseau fonctionnent très bien pendant les vacances scolaires, même pendant les vacances d'hiver.
Surtout que là, vous avez une chance infinie. Il a fait un temps extraordinaire. J'imagine que chez vous, ça a joué énormément, ceux qui ont voulu partir vers les destinations justement de l'autre côté du ski, du côté plutôt de la plage et de la mer. Ça a joué aussi la météo, ça a été un bon impact, hein?
Ouais, ça joue beaucoup pour une autre raison, c'est que la plupart de nos clients se décident en dernière minute, donc font des réservations dans les 24-48 heures qui précèdent le voyage. Donc effectivement, lorsqu'il y a du beau temps qui est annoncé, ça booste les réservations.
Bon, et juste toute dernière question, quand est-ce que vous pensez que l'opération sera finie? Quand est-ce que vous aurez pu racheter Euroline et Easyline?
C'est assez difficile à dire, ça dépend pas que de nous.
Vous espérez quand alors?
C'est probablement au cours du trimestre qui arrive, en espérant effectivement qu'on puisse...
D'ici l'été quoi, ça devrait être fini.
Oui, d'ici l'été, on envisage effectivement de pouvoir avoir intégré le réseau.
Eh bien merci beaucoup. Yvan Lefranc-Morin était notre invité, directeur général France de Flixbus. On se retrouve demain, 22h20, toujours sur Europe 1.
Merci beaucoup et à demain, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Un visage est à la une de plusieurs journaux, notamment le journal La Croix, celui du cardinal Barbarin bien sûr. Avec ce titre, le choc, l'archevêque de Lyon condamné à 6 mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels du père Prénat. Ce qui a tout changé, écrit Guillaume Goubert, c'est la prise de parole des victimes, celle que le pape François a voulu en priorité faire entendre aux présidents de conférences épiscopales du monde entier réunis au Vatican fin février. Cette parole, c'est celle que le cardinal Barbarin n'a pas su accueillir comme il aurait fallu, ainsi qu'il l'a reconnu. Le pape François va devoir décider s'il accepte ou non sa démission. Décision difficile car ce dernier paye au-delà de ses propres erreurs les fautes de ses prédécesseurs. Il est cependant nécessaire aujourd'hui, écrit Guillaume Goubert, pour le bien de l'Église, de donner le signal d'un changement d'air. Le cardinal Barbarin est également à la une de Libération qui titre « Barbarin, le primat gaulé ». Un jugement qui sonne comme un avertissement contre l'Église. Pour Laurent Marchand dans Ouest-France, cette condamnation, c'est d'abord un soulagement pour toutes les victimes de crimes de pédophilie et leurs familles. La justice des hommes, sans attendre celle de Dieu, donne un signe sans équivoque. Elle offre un peu de réparation symbolique, si tant est que certains crimes puissent être réparés. De justice et de vérité, deux vertus prônées par l'Église elle-même.
Et puis dans les échos, tout autre sujet. Daniel Fortin s'intéresse aux loyers qui flambent à Paris. C'est une affaire de semaine, écrit-il. Les 10 000 euros le mètre carré en moyenne seront prochainement atteints. Aux ingrédients habituels d'un marché en pleine flambée, déficit d'offres, taux d'emprunt au plus bas et attractivité économique de la capitale, s'ajoute en effet désormais l'effet Brexit. La tentation du retour qui s'empare des Français installés à Londres dope en effet la demande dans les quartiers résidentiels et pas n'importe lequel. Lesquels, cette clientèle haut de gamme est prête à aller jusqu'à 20 000 euros le mètre carré pour décrocher son appartement terrasse familiale. Voici donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain dans vos kiosques. Et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters, bien sûr, pour votre libre antenne. Bonsoir Sophie.
Bonsoir Isabelle.
Très belle soirée à vous.
Merci.